106.9 Morici commentaire.
Que la Morici se lève.
Voici Maître François Vigean.
Salut François.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Hey, on peut-tu commencer en parlant de Trump un petit peu, de la fin de semaine? Tu as peut-être entendu Valérie Beaudoin là, nous tracer les grandes lignes. Comment tu trouves ça? Un, le crois-tu? Deux, comment tu trouves qu'il gère ça?
Ben là, je l'ai jamais cru, ça fait que je pars de la barre et pas pour moi. En fait, il n'y a plus grand-chose à perdre. Hein? C'est-à-dire que ça va mal. Tu sais, quand on dit nous autres, ça va bien aller, là, pas lui.
Oui.
OK? Alors, lui, son élection, elle va extrêmement mal. Et il n'y a pas grand-chose à perdre. La dernière lueur d'espoir qu'il y avait, c'était le débat. Le débat est très mal allé. Alors, il va peut-être se promener sur la rue principale à Washington en lichant les poteaux pour montrer que la COVID, c'est pas dangereux. Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de... Il est obligé de faire des coups d'éclat parce que ça ne l'avantage pas. Parce que, évidemment, le désavantage, c'est pas tant qu'il y ait le COVID, parce que pendant qu'il y a le COVID, il tweet beaucoup moins puis il fait moins de déclarations. Alors, on pourrait penser que le COVID pourrait l'avantager de ce côté-là. D'un autre côté, c'est parce que ça attire l'attention sur un sujet qui ne l'avantage pas. Alors qu'il y a plusieurs autres sujets qui l'avantagent. Mais pas celui-là.
Non.
Bon, alors, à cause de ça, d'ailleurs, c'est extrêmement rare dans l'histoire américaine qu'il y a eu des présidents qui n'ont pas été réélus alors que la bourse allait très bien. Ça, je l'ai déjà expliqué. Les Américains...
Oui, tout à fait. Oui.
C'est pas comme nous. Eux autres, ils ont des actions boursières dans leur régime de retraite qui sont souvent autogérées. Alors, le sort de beaucoup, beaucoup d'Américains est lié aux performances de la bourse.
Ouais.
Contrairement à nous, où nous, on est plus de la culture d'avoir des régimes complémentaires de retraite. Alors, finalement, ça nous avantage, mais on le voit pas. Hein, parce qu'on accumule des droits en rente. Alors, ça, on le voit pas. Les Américains, eux autres, ils le voient. Parce qu'ils reçoivent à chaque mois des relevés de leur régime de retraite autogéré, puis là, ça varie. Alors, quand ça va vers le haut, généralement, c'est extrêmement significatif. Mais là, c'est parce que ça, c'est un avantage qui perd, parce que là, c'est plus le sujet. Alors, il n'y a plus grand chance de s'en sortir nulle part. La balade en suburban, alors qu'il y a le COVID, là, c'était pas un coup de génie, ça.
Non, pas tellement, non. C'est...
Bon.
Mais c'est ce que je comprends pas, là. Puis je sais qu'il décide de tout, là, mais il y a quand même une équipe autour de lui. Puis tu sais, il y a des médecins. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, Monsieur Trump, c'est pas une bonne idée.
Des membres de sa famille les plus proches,
je
hein?
Sais,
c'est Kushner, son beau-fils, ses filles. Bon, alors, c'est des gens qui vont pas le confronter réellement. Mais apparemment que la ride n'a pas duré très longtemps, là.
Non.
Heureusement, il y a ça. Mais ça changera plus grand-chose, là. Cette élection-là est jouée. Il y a plus... Quand on regarde dans les sondages, le vote est complètement polarisé. Il y a plus d'indécis dans cette élection-là. Hein? Il y a plus d'indécis.
Il y en a pratiquement plus, oui.
Mm-hmm. Non, exactement. Je pense que la nomination... la nomination qui n'a pas été entérinée par le Sénat, mais de la juge en chef à la Cour suprême... Pas la juge en chef, mais la dernière juge choisie par lui, qui est une fervente de la criminalisation de l'avortement, peu importe les circonstances, en passant.
Oui.
Alors, ça aidait pas. Hein, parce que ça, c'est un sujet qui est extrêmement sensible.
Oui.
Et... La frange vraiment, vraiment ultra pro-vie, elle votait déjà pour lui. Alors, ça y amenait aucun nouveau vote, ça, cette nomination-là, de cette juge-là. Et il y a des gens qui auraient été prêts à voter pour les Républicains, pour ne pas voter pour les démocrates, mais qui ne le feront pas s'il y a la criminalisation de l'avortement. On le sait ici à quel point c'est sensible, ce sujet-là.
Oui,
c'est un sujet très, très polarisant. Alors, puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore une majorité silencieuse aux États-Unis, qui est inférieure ici, mais qui est très importante quand même, qui est contre la criminalisation de l'avortement. Alors, je ne sais pas comment ils pourraient s'en sortir mathématiquement, parce que moi, j'ai gagé 2 piastres avec mon beau-frère. Alors, je suis ça pas mal depuis 2-3 mois, et je dors très bien sur mon choix. Okay?
OK, mais ça veut dire, en résumé, François, ceux qui sont de toute façon qui sont déjà convaincus, qui sont pro-Trump, vont de toute façon, ça c'était des réglés, vont voter pour lui. Ouais. Mais ceux qui restaient peut-être indécis ou qui regardaient les choses aller, le côté sympathie, le fait qu'il y a la COVID, de ce que je comprends, ça convaincra pas grand monde. C'est ce que
non, ben, non, ben en fait, ce qu'ils pouvaient espérer aller chercher, là,
ouais,
ce sont les électeurs qui disent « J'haïs Trump pour mourir ». Mais je ne voterai pas pour les démocrates. Je ne suis pas capable de voter pour les démocrates. Ouais. Alors, je vais me pincer le nez, puis ouais, je vais voter pour lui. OK? Alors, okay, ça, ça constitue une certaine masse de vote, là. OK? Ouais. Mais ouais, c'est parce que niaiserie par-dessus niaiserie, ça devient de plus en plus difficile de se boucher le nez. OK? Mm. L'odeur est de plus en plus nauséabonde. OK?
Ouais,
alors, il
ouais,
y a bien du monde qui, il y a un mois ou deux, aurait dit... Bon, moi, voter à gauche, ça n'est pas question. C'est un colon, mais je vais voter pour lui parce que j'aime autant avoir un colon que voter à gauche. Ça, ça s'effrite. On le voit mmh, par le nombre et le pourcentage des indécis qui diminuent toujours. Et dans certains États, ça va pas bien parce que ça va jouer sur 5-6 États. Ceux qui pensent qu'on va veiller tard le 3 novembre, là, détrompez-vous. À 9h30 ou 10h, si on réussit à se débrouiller avec le vote par la balle, c'est parce que ça, c'est une autre histoire.
Si ça fait pas comme chez les conservateurs au Canada, ça devrait bien aller.
Ouais, les conservateurs, ça, c'était... Oh, mon Dieu, j'avais honte
c'était
pour
c'était horrible. Non, non, c'était gênant. Bon,
alors, okay, alors, comme ce sont des États de l'Est qui vont décider, okay, Pennsylvanie, Ohio, Maryland, Wisconsin, Floride, à peu près, là, mm-hmm, Michigan, ben on ouais, va le savoir assez vite.
Okay.
S'il va être élu. Mais là, je vois plus... En anglais, il appelle ça path, un chemin. Je ne vois plus de chemin mathématique où ça peut arriver. Okay. Alors, attendez-vous à des déclarations de plus en plus édifiantes. OK? De plus en plus. Parce que là, il est 3-4% dans les États importants, 8% mm-hmm, dans le vote total. Là, si ça glisse encore de 1 ou 2% dans les prochains jours, mm-hmm, attendez-vous à des déclarations absolument... Je sais pas si tu as déjà vu le film, je me rappelle plus en français, c'était quoi? C'était Wag the Dog, avec Dustin Hoffman, puis plein le gars qui invente une guerre en Albanie,
oui,
là, parce que...
Oui, c'est très bon, ça.
Ça, c'était absolument extraordinaire. Attendez-vous
des
à quelque chose
de même. Des hommes d'influence.
Ah, voilà, des hommes d'influence.
C'est vraiment excellent, c'était... à voir.
Alors, c'était absolument délicieux. C'est l'histoire de l'équipe de président qui invente une fausse guerre pour attirer l'attention sur des méfaits sexuels, en tout cas. Ça devrait donner quelque chose comme ça.
Absolument. OK. Tu voulais nous parler de la crise d'octobre?
Oui, c'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre.
Ouais.
En fait, le sujet dont je veux vous parler, c'est pas tant la crise d'octobre elle-même comme le fait qu'avec les années, tout devient plus romantique dans la vie. La crise d'octobre, là, c'est pas très compliqué. Il y avait un gars, James Cross, un diplomate mm-hmm, britannique qui a été assassiné, ensuite Pierre Laporte.
Ouais.
C'était des felkistes.
Mais Cross, il n'a pas été assassiné, François.
Non, je m'excuse, il a été kidnappé.
Il a été kidnappé, oui.
Excuse-moi. Et, bon, les frères Rose, il y avait Cossette Trudel, je ne me rappelle pas de leur nom, tous, là. Laporte a été trouvé, qui était un ministre du gouvernement libéral à l'époque, du gouvernement de Robert Bourassa, avait été trouvé dans le coffre arrière d'une voiture. Certains disaient que c'était accidentel. Je ne sais pas comment tu peux mourir étranglé dans un coffre de voiture accidentellement, mais en tout cas. C'est drôle parce que moi, j'ai un certain souvenir de ça. J'avais 7 ans, mais j'ai un certain souvenir de la panique des gens, des manchettes des journaux. J'ai un souvenir de l'époque. Mm-hmm. Et c'est drôle parce que Jean-François Lisée vient d'écrire un livre que je lirai pas, puis c'est drôle parce que j'ai lu plusieurs de ses bouquins, Le Naufrageur, Le Tricheur, d'autres.
Ouais. Pourquoi tu le liras pas, celui-là?
Ben, parce que, juste le sujet, premièrement, il y a eu tellement Bourassa que je sais pas à quel point il pourrait en faire une description, vraiment, qui pourrait m'intéresser. Même
c'est
si, dans les autres, dans la biographie de Bourassa, qui fait à vrai belle page, plus que belle page, c'était resté excessivement intéressant parce que c'était factuel. Là, après 50 ans, c'est devenu du folklore. C'est rendu que c'était des bons gars, ce gang-là. OK? C'était pas des bons gars, c'était des terroristes, OK, qui ont tué Pierre Laporte, qui ont kidnappé Cross. Puis il n'y a pas d'autre mot à dire que ça. Je dis, mais avec le temps, tout devient plus beau, tout devient romantique. Et là, il y a toutes sortes de doutes qui intervient sur ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu as entendu parler déjà du gars qui s'appelle Wilbur Coffin. Il avait tué, je pense, un ou deux chasseurs, là, à un moment donné, il y a à peu près 70 ans. Et là, à un moment donné, les gens ont commencé à dire, c'est une erreur judiciaire, il n'y aurait jamais... Ben oui, 70 ans plus tard, tu vas toujours trouver des trous dans la preuve. Tout le temps, parce que le doute s'installe, la mémoire des témoins devient confuse.
Ah, mais ça, c'est,
hey,
ça c'est au début du siècle, ça. Hein? C'est une.
Oui, ouais, ben, c'était des années 30-40, je te dirais, à peu près, là. Okay, pardonnez-moi ceux qui. J'irais plus peut-être 40-50, même, dans ce coin-là.
Okay.
Non, ben, d'après moi, il faudrait que quelqu'un. À ce temps, tout le monde sait tout. Vous pourriez vérifier, là, c'est il me semble que c'est Wilbur Coffin. Alors, là, à un moment donné, il y a un mouvement pour dire, parce que il était condamné, probablement qu'il était condamné à la mort à l'époque, parce qu'avant 72, il y avait la peine de mort au Canada. Bref, des histoires comme ça, là, on peut en raconter par dizaines, OK? Ouais. Quand ça fait longtemps que quelque chose est arrivé, tout se déforme. Or, il y avait personne qui pensait que le FLQ, c'était romantique il y a 50 ans. Il y a 50 ans, quand c'est arrivé, c'était des terroristes. Là, c'est parce que deux générations ont passé, et là, on est porté à faire des héros avec des gens qui devraient plus ou moins l'être, là. Bon. Puis le FLQ, c'était pas un mouvement romantique, là. OK? C'était des attaques à la bombe. Ouais. Bon, dans les années 60, parce que ça n'a pas été juste en 70, ça a commencé... ben avant, il y a eu des bombes dans des boîtes à mal, etc. Bon, alors, ça c'est toujours étonnant pour moi à quel point, là, on repense à ça. Tu sais, je voyais des membres de Québec solidaire lever le poing à un moment donné parce qu'il y a eu un film sur Paul Rouge, je pense.
Oui, tout à fait.
Tu sais, qu'on aille voir le film, je veux dire, ceux qui veulent aller voir un film sur Paul Rose, ça vous regarde, je veux dire, j'ai rien à dire là-dessus. On est-tu vraiment obligé d'en faire quelqu'un d'héroïque? Je veux dire, on a personne d'autre dans notre société là qu'on pourrait célébrer, qui aurait eu un passé un peu plus brillant.
On a une petite tendance à faire ça, François, au Québec.
À faire des héros de drôles de personnes, honnêtement, OK?
Ouais.
Et une fois que tout le monde est mort, ça, il faut que je te raconte une histoire assez drôle là-dessus.
Vas-y.
Mon ancien patron, il s'appelait Pierre Sauvé. Avocat chez Bélanger Sauvé, c'est lui, Pierre Sauvé.
Ouais.
Son père a été premier ministre, mais vraiment, vraiment pas longtemps, après la mort de Duplessis.
Ouais.
Et il était ministre dans le cabinet de Duplessis. Et à un moment donné, Radio-Canada ou Télé-Québec, je ne me rappelle plus lequel des deux, là, a ramené à l'affiche une série très, très connue de l'époque qui s'appelait Duplessis, qui avait été faite dans les années avec Jean Lapointe, qui faisait un portrait de la politique au Québec à l'époque. Et à un moment donné, je suis dans une activité de bureau, M. Sauvé est avec son épouse, et je leur dis « Est-ce que ça vous a intéressé de revoir la série? » Puis là, je vois les deux me regarder comme si j'étais un extraterrestre. Puis là, à un moment donné, il y avait un malaise. J'ai dit « Écoutez, là, brisons le malaise, là, j'ai dit quelque chose de pas correct. » OK? Puis là, ils m'ont dit quelque chose de bien intéressant. M. Sauvé m'a dit « Tu remarqueras une affaire dans la série Duplessis. Tous ceux qui étaient morts quand ils ont tourné, là, passent pour des imbéciles finis, puis tous ceux qui étaient encore vivants, eux autres, s'en tirent parfaitement bien. OK? L'histoire est un peu faite comme ça. OK?
Ouais.
Et avec le temps, on romantise. Puis moi, honnêtement, le dernier point que je dois dire, c'est que c'est facile maintenant de dire qu'il n'aurait pas dû avoir les mesures de guerre à l'époque.
Ouais.
Ça, c'est l'histoire du corps arrière du lundi matin. OK? Évidemment, quand la partie est finie, on est tous super bons pour dire qu'est-ce que l'équipe aurait dû faire. Mais
oui,
à l'époque,
c'est bien facile.
À l'époque, c'était la panique et personne ne savait si ça se limiterait à Cross ou à Laporte, etc.
Mm-hmm.
Bon, c'était des groupes qui étaient extrêmement inquiétants, qui étaient extrêmement violents. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Jean-François Lisée, j'adore son écriture. Moi, je crois pas, mais libre à ceux qui veulent le lire, parce que c'est quelqu'un d'intéressant à lire. Mais moi, aller me faire dire que finalement, mesure de guerre, parce que je pense que c'est un peu ça, l'idée du livre, là, Je suis pas sûr que ça va m'intéresser tant, puis je suis pas sûr qu'on devrait faire des héros avec ces gens-là. Personnellement,
ouais, mais je te rejoins. Mais j'ai lu beaucoup là-dessus, puis il y a eu beaucoup de reportages, surtout depuis une semaine, même ça avait commencé un petit peu avant. Je sais pas si tu as lu en fin de semaine, c'est dans le Journal de Montréal. D'ailleurs, on a essayé de lui parler, mais on n'a pas eu de retour. C'est un ex-felkiste là, qui a décidé de sortir un peu de l'ombre. Il s'appelle Pierre Nadon. Refait sa vie dans la région de Québec. Mais c'est ça, quand tu lis sur ces gens-là, lui, il avait 18 ans là, quand il a joint les rangs du Front de libération du Québec. Puis bon, il parle des vols à la caserne. Puis écoute, ces gens-là étaient armés, François, là, les révolutionnaires.
Non, il était armé jusqu'aux dents, puis il faisait sauter des bombes.
Des lance-roquettes, des mortiers, c'était épouvantable.
C'était un groupe paramilitaire.
Oh oui,
alors,
bon,
il était peut-être pas si nombreux. Écoute, la cellule Chénier, là, moi, je me rappelle, je suis assez vieux pour me rappeler des communiqués à la télévision, dans le journal.
Ouais.
Bon,
ouais.
De cette cellule-là. Alors, on savait pas combien y étaient ces gens-là à l'époque.
Ouais.
OK? Finalement, ça s'est retrouvé qu'il était peut-être 20 ou 25, là, je me rappelle plus exactement, peut-être même... Mais on le savait pas, il aurait pu être 200, 400, je sais pas. Mm-hmm. Alors, c'était une situation qui était extrêmement dangereuse. Je sais que les gouvernements se font beaucoup, beaucoup critiquer. Bon, il y a eu un film très intéressant qui s'appelle « Les ordres de Bro » sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est controversé. Puis moi, je regrette pas le fait qu'on puisse en discuter d'une façon controversée. OK? Ça me dérange pas. Mais on prendrait d'autres héros que cette gang-là, puis ça serait correct aussi.
Salut François, à demain. Bye-bye. François Vigeant, du lundi au jeudi, 7h35.